Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïca réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Fréquence Europe. Alors, les élections européennes de mai 2019 ont été marquées par une forte mobilisation des citoyens de l'Union, avec une participation atteignant 50,6% au niveau européen, soit plus de 8 points par rapport à 2014. Alors, suivant un processus habituel, le 18 juillet à Strasbourg, le Parlement européen votait l'investiture d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne. À noter que jusque-là, la Commission n'avait jamais été dirigée par une femme. Cet événement politique majeur n'a pas été couvert par le journal de 20h de TF1, journal télévisé le plus suivi par les Français, alors que France 2 ne lui consacrait que 15 secondes. Ce choix rédactionnel pouvait peut-être s'expliquer par la période estivale, que nenni. Le 27 novembre, cette fois-ci c'est le collège de commissaires dans son entièreté, qui fut approuvé par le Parlement européen et rebelote, quasi aucun retour télévisé sur cette info. Cette anomalie, cette bizarrerie fut dévoilée par Yann Barthès dans l'émission Quotidien de la façon suivante. Pendant que l'Europe écrit l'histoire, les chaînes d'infos sont à la cantoche. Alors l'Europe est-elle mal aimée par la télévision française, comme le titrait le journal Le Monde dans un article du 17 janvier? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre avec nos différents invités. Nous avons donc le plaisir d'avoir dans nos studios Caroline Olivier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes rédactrice en chef d'Arte Journal, donc diffusé en France à 19h45 et en Allemagne à 19h10.
Tout à fait, 19h20.
19h20. Excusez-moi. J'ai également avec le plaisir d'accueillir Bernard Veil, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes quant à vous rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions.
Oui, en fait, moi je suis basé à Strasbourg et on travaille plus spécifiquement sur la couverture des institutions européennes qui sont basées à Strasbourg, à Bruxelles et Luxembourg.
Et nous avons en ligne Théo Verdier. Bonjour Monsieur Verdier.
Bonjour.
Alors vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès et vous êtes co-auteur de plusieurs études sur le traitement de l'Europe dans les différents médias français. Et vous avez analysé et comptabilisé la présence de l'Union européenne dans les grands médias et plus particulièrement dans les journaux télévisés. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dresser un peu le constat? Quels sont les résultats de votre étude?
Merci beaucoup pour votre invitation. En résumé, on a mené une étude inédite parce qu'elle n'avait jamais été faite sur l'aspect chiffré sur la base des données de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel pour la Fondation Jean Jaurès. D'abord sur la visibilité de l'Union européenne dans les JT, les principaux JT du soir, dont Arte Journal. Et ce qu'on voyait, c'était une étude qui a été publiée en mars dernier, c'est que à peine 2,7% des sujets diffusés par les JT, et notamment si on prend TF1, le JT le plus regardé de France, on tombe à peine 1,4% de ces sujets sont consacrés à l'actualité de l'Union européenne. Et quand on dit l'actualité de l'Union européenne, c'est l'action de ses institutions, de ses représentants et ses relations avec ses États membres. Donc on a un constat, c'est que le premier média de masse en France, le plus regardé par les Français, n'arrive pas à représenter l'actualité de l'Union européenne, ou alors quantitativement de manière très faible, même si certains se démarquent, tel Arte Journal. Et c'est pour ça qu'on a étendu notre analyse dans une étude qui a été publiée en décembre, toujours sur le même principe, où là, on a analysé les journaux d'information diffusés par les télévisions, les principales sont à leur JT qu'on avait déjà analysé, les chaînes d'info, BFM, CNews, LCI, France 24, et les principales radios nationales. Et ce qu'on voit, c'est qu'on arrive en fait sur le même ratio de 3% du temps d'antenne des journaux d'information des principaux médias audiovisuels, parce que la radio et la télé restent les deux premiers médias des Français malgré l'essor de nouvelles sources d'information. Et on arrive toujours sur un ratio de 3%, c'est-à-dire vous avez 100 minutes d'émission, vous avez à peine 3 minutes consacrées à l'Union. Donc un ratio extrêmement faible sur le point de vue quantitatif. On s'est posé la question, donc on a interrogé plus d'une trentaine de personnalités, à la fois des acteurs, du sujet, thème politique, société civile et des journalistes. Et ce qu'on voit bien, c'est un triple problème qu'on pourra détailler dans l'émission, mais sur lequel je peux donner des pistes de réflexion. On a effectivement un souci de proximité entre les rédactions nationales et la vie publique communautaire. Clairement, et ce sont deux mondes qui ont du mal à se parler, pour des questions déjà de langue, le plurilinguisme est mise à mal dans la couverture, dans la manière dont les institutions communiquent, mais aussi de présence et de mobilisation auprès de ces institutions. Et si on fait le ratio des mobilisations, des moyens investis à Bruxelles, auprès des institutions, par exemple par des médias allemands et des médias français, le ratio n'a rien à voir dans les moyens qu'on investit dans ces différentes rédactions et qu'on donne pour suivre l'actualité de l'institution communautaire.
Mais on y revient, on reviendra sur cet aspect linguistique et de moyens. Le deuxième élément, vous disiez, c'était...
Ouais, c'est une question de politisation. C'est qu'on n'arrive pas à faire de la communication sur l'Europe un objet politique. Et ce, à la fois du haut vers le bas, c'est-à-dire que la Commission européenne n'assume pas son rôle d'exécutif européen quand elle communique en France sur l'Union, et qu'elle n'assume pas son rôle d'émetteur principal. Si on regarde les moyens qui sont alloués par la Commission pour communiquer en France sur ses politiques, même celles sur lesquelles elle est pleinement compétente, comme le commerce international, on voit bien qu'elle a deux porte-paroles qui sont dans un mode de fonctionnariat et qui du coup privilégient des médias à froid. Elle a son commissaire français, mais qui a toute la plénitude de sa fonction, plus communiquer dans les 27 autres États membres. Et donc elle a très peu de moyens pour communiquer politiquement en France, au-delà de ces trois personnes-là, et de son réseau institutionnel, mais qui, lui, ne prend pas position sur les enjeux politiques. Et sur le Mercosur, on le voit bien, après une semaine de polémique, quand l'accord de l'annonce a été fait en juin dernier, c'est finalement Pascal Lamy, ancien commissaire, ancien président de l'OMC, mais actuellement plus rien du tout pour les citoyens qui élisent des députés, qui eux-mêmes élisent la commission. C'est Pascal Lamy qu'on a dû sortir sur la première matinale de France pour aller défendre les positions de la Commission européenne sur l'accord Mercosur. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème d'incarnation du message de la Commission en France, et on a un problème de politisation aussi du bas vers le haut, du niveau national vers le niveau européen. C'est-à-dire que si on compare, nous on est allé demander qu'est-ce qui se passait en Europe du Nord, en Europe centrale, si on compare avec des systèmes politiques voisins des nôtres, la France est un des seuls pays où on n'a pas de débat à l'Assemblée sur la politique européenne de la France. Et en fait, comme on n'a pas ce débat national avec des acteurs qui sont eux bien identifiés, l'opposition versus le gouvernement, des ministres qui ont une notoriété phénoménale en France par rapport aux acteurs de la politique européenne, comme on n'a pas cette scénarisation de la vie politique européenne au niveau national, eh ben, on n'arrive pas à mettre des images et du coup à rendre le sujet attractif à la fois pour des rédactions et identifiable dans les différents clivages, à mettre des visages.
C'est ce qu'on va demander à nos deux personnes, journalistes et on va dire chefs de rédaction, pour avoir aussi leur point de vue si eux font le même constat.
Le troisième élément, c'est une vraie problématique, mais là qui est une problématique de long terme, qui est d'acculturation ou, si vous préférez, de sensibilisation à la question européenne. La hiérarchie des priorités éditoriales, elle met toujours l'Union européenne. En tout cas, elle ne le place jamais parmi les premiers sujets que l'on doit traiter. Alors, il y a effectivement une loi de proximité qui peut s'entendre, mais même quand l'Union européenne a un impact important, on pouvait penser au RGPD, qui n'a pas du tout été traité dans les grands médias audiovisuels, la mise en place du règlement général sur la protection des données qui touche le quotidien de tous les citoyens. Même quand on a un sujet qui touche et qui impacte les Français, on n'arrive pas à en parler. On a un vrai problème de hiérarchie éditoriale. Et l'histoire de Madame von der Leyen sur l'investiture qui n'est pas couverte pour préférer un scandale de rugie, bon, ça nous arrive une fois par an d'avoir un scandale sur un ministre, c'est une très belle illustration de ce sujet-là et qui se retrouve en fait bien en amont sur la partie formation des journalistes, mais aussi formation des élus locaux et des relais associatifs, sociétés civiles. On a un vrai problème de sensibilisation des acteurs de notre vie publique aux enjeux européens.
Alors, on va commencer par vous, Bernard Veil. Déjà, êtes-vous d'accord avec cette analyse et est-ce que vous êtes tenu, vous, par France Télévisions, par une forme de cahier des charges pour en faire plus sur l'Europe, ou vous faites, on ne vous demande rien, vous faites ce que vous voulez?
Non, on a un cahier des charges très précis sur l'Europe, on pourrait y revenir tout à l'heure. Moi, je voudrais quand même préciser deux ou trois petites choses par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord sur l'investiture de Madame von der Leyen, je ne conteste pas du tout ce qui vient d'être dit, c'est vrai. Par contre, la nomination de Madame von der Leyen, bien avant son investiture, quelques semaines avant, elle a été traitée dans les journaux. Donc on peut, c'est vrai que pour les 15 secondes de off qui ont été présentées dans le journal de la 2, je trouve qu'effectivement c'est un peu léger. Mais enfin, on peut pas dire par là qu'on a traité la nomination de Madame von der Leyen à ce moment-là en 15 secondes. On l'a fait avant, on a traité avant. Et on a toujours fait mieux que TF1. Ça, c'est clair. Ce qui me paraît très important, c'est, dans tout ce qui a été dit, c'est le deuxième point. C'est l'incarnation de l'Europe. C'est effectivement ce qu'il y a de plus difficile à cerner et à présenter au public. Parce que nous, on fait de la télé.
Mais là, vous voyez, je vous coupe, hein, mais vous aviez Ursula von der Leyen, nouvelle personne, elle incarne l'Europe. on la montre pas, on n'en parle pas. Donc, je sais pas si c'est exactement un problème. On a moyen de trouver et d'incarner un peu l'Europe, mais on le fait pas quand même.
Attendez, tôt ou tard, elle sera invitée du 20h de la 2. Mais l'incarnation, elle est fondamentale. On fait de la télé, on fait de l'image, il faut des acteurs aussi. Quand on a eu, au Parlement européen, des figures comme Daniel Cohn-Bendit ou comme José Bové, on avait quelque chose à vendre, à proposer au rédacteur en chef des éditions nationales ou au chef d'édition qui n'attendait que ça. Quand on leur proposait des figures d'eurodéputés moins connues, mais spécialisées dans leur domaine, on a souvent des refus. Parce qu'il faut des personnes qui sont connues, qui accrochent, etc. Et ça, c'est la grande difficulté qu'on a pour tous ceux qui travaillent sur l'Europe dans le service public. Elle est là, c'est de trouver des figures. Et à la Commission européenne, c'est encore pire, hein, parce que le rôle politique dont il parlait tout à l'heure. De la Commission européenne, il est politique dans le sens où on a vraiment affaire à des fonctionnaires et qui sont tenus par un certain statut, une certaine réserve, etc., et qui sont pas forcément les gens les plus faciles à gérer en termes de communication.
Je me tourne tout de suite vers vous, Caroline Olivier. Vous, c'est intéressant parce que vous êtes donc dans un média franco-allemand, sur Arte Journal. Et vous, est-ce que vous ressentez la problématique telle qu'elle est présentée dans un média purement dans un cadre plutôt franco-français? Est-ce que vous constatez, vous faites le même constat? Parce que pour dire la vérité, vous n'êtes pas du tout vers les 2, et quelques pourcents de programmes européens diffusés. Vous êtes quand même déjà à 6%, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Théo Verdier? Sur Arte Journal, ils sont plus proches des 6% de programmes.
Effectivement, le service public international, donc surtout Arte et France 24, est bien en amont et était vraiment la figure de proue de la couverture de l'actualité européenne, de l'actualité de l'Union européenne dans ses différents journaux. Ça tient évidemment à sa ligne éditoriale spécifique sur le sujet. Mmh. Ouais.
Voilà. Alors oui, effectivement, il y a une chose qui nous rend la vie concernant l'Europe beaucoup plus facile, c'est évidemment la mission de base d'Arte, l'ADN, je dirais, qui est depuis le début l'Europe, le franco-allemand, mais aussi l'Europe et de plus en plus l'Europe. Et ça vaut évidemment aussi pour le journal. Donc c'est pas récent, c'est très ancien qu'on considère l'Europe un peu comme notre terrain de couverture. Et ça vaut pour le journal, pour toute la maison, mais c'est aussi les convictions journalistiques de la rédaction, je dirais. On se considère tous, évidemment, d'abord comme citoyens européens, mais journalistiquement, on est tous sur la même base de penser que les sujets, l'Europe est important, les sujets européens touche les citoyens, donc journalistiquement, ça vaut le coup d'en parler. Donc ça, c'est déjà la base. Et puis, évidemment, dans la vie quotidienne d'une rédaction franco-allemande, où il faut se poser tous les jours la question qu'est-ce qu'on raconte à nos deux publics, c'est quoi les sujets qui nous touchent tous, les deux publics, automatiquement, on arrive au sujet européen.
Et comment vous passez les obstacles, alors, qu'on a raconté, qui est là, cette problème d'incarnation, de politisation?
Effectivement. Là, je rejoins mon confrère, effectivement, et il y a ce problème de base, évidemment, aussi pour nous. Donc, il y a toujours... moi, j'étais correspondante à Bruxelles aussi, je me rappelle encore de ce vieux préjugé à moitié vrai, à moitié faux, l'Europe n'est pas sexy, surtout pas pour la télé. Alors, moi, je pense qu'effectivement, on a toujours envie des grandes têtes, des grands caractères comme Daniel Cohn-Bendit, mais du coup, moi, je trouve que c'est aussi un joli défi journalistique de se creuser la tête, comment faire un sujet... européen intéressant. Et c'est possible si on arrive à expliquer en quoi ça nous touche. Et je pense que c'est ça qu'on essaie de faire. Des fois, on réussit, des fois, on réussit pas. D'expliquer en quelle manière des dossiers, des fois techniques, des fois moins techniques, nous touchent dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est la dernière remarque que je voulais faire qui concerne aussi l'étude. je pense que c'est effectivement très important de parler de la politique, des institutions. Bruxelles, pour nous, c'est une sorte de capitale. Hein. Nous, on a trois capitales chez nous, Paris, Berlin et Bruxelles. Mais c'est pas seulement la politique, les institutions. Nous, et ça m'importe beaucoup, pour nous, l'Europe, c'est pas seulement Bruxelles, c'est aussi les États, les sociétés. Et souvent, c'est lié. Hein. C'est en quelle mesure l'agriculture, la politique d'agriculture touche les Polonais, les Allemands, les Français. Mais c'est là où on arrive à faire tout ça plus digeste pour le téléspectateur en déclinant la politique européenne de Bruxelles dans les États membres.
J'ai une question qui s'adresse un peu à vous deux. On reviendra avec Théo Verdier sur le contenu. Moi, je me suis posé une question. On a une crise de réforme des retraites en France. Est-ce que vous, dans vos deux médias, vous avez traité la question des retraites, mais vu des autres pays européens ou pas ?
À ma connaissance, chez nous, c'est sur France Info que ça a été fait en infographie, parce qu'on ne peut pas tourner partout, etc. Mais on peut, effectivement, aujourd'hui, avec ces méthodes de travail, traiter ce genre de sujet en regroupant en desk, en amont, des informations et puis les traiter de la manière la moins onéreuse possible. Parce que l'actu européenne, ça coûte cher.
Vous, sur Arte, vous avez pu le faire, sur Arte Journal. Je pose la question vraiment naïvement.
Oui, non, mais bien sûr. C'est un peu notre réflexe de base quand il y a un sujet national qui concerne toute une société, de regarder un peu ailleurs comment ça se passe. Et évidemment, le premier terrain, c'est l'Allemagne. Là, du coup, on avait un ou même plusieurs reportages des exemples allemands, des retraités. Mais là, on a aussi fait quelque chose qui coûte peut-être un peu moins cher. C'est ce qu'on appelle une pastille. Donc là, on n'a pas envoyé une équipe sur le terrain, mais on a fait à l'aide d'une carte, à l'aide des chiffres et à l'aide d'un expert, un peu un regard trans-européen qui a posé la question, mais comparé aux autres, qu'est-ce qui rend la position française, le système français particulier ou pas.
Et un des constats et des remarques qui sont faits dans l'étude, c'est par exemple comment est traité les États-Unis régulièrement, que ce soit les élections. Là, moi, je pense simplement à la question de l'impeachment contre Donald Trump. Ben, on en parle dans les médias alors que personne, mais je mets au défi quelqu'un de comprendre et de personnifier qui s'occupe de ça, comment c'est traité. Comment vous expliquez que finalement, on traite plus des États-Unis que de l'Europe et même sur des sujets que je trouve, moi, très compliqués.
Ben, les États-Unis, c'est un robinet d'image. Que vous ayez un bureau ou pas à Washington, que vous ayez des correspondants sur place ou pas, vous avez de toute façon un torrent d'images tous les jours par l'Eurovision qui va déferler chez vous et qui va vous proposer énormément de matière sur ce qui se passe aux États-Unis. Ce robinet que vous n'aurez pas sur les pays d'Afrique.
Mais sur la technicité aussi, parce que ce soit le mode électoral déjà, moi j'y...
Après, il y a quelque chose de culturel. Il y a un problème de domination culturelle. Je dirais domination sans aucun jugement. La culture américaine a pris complètement le pas sur les autres cultures, y compris en Europe, et le regard qu'on porte sur les Américains est majeur dans nos sociétés.
Théo Verdier, vous, quand vous avez fait vos interviews des différents experts, des différents spécialistes, comment ils réagissaient par rapport à ce constat de finalement on traite plus des États-Unis que de l'Europe et nettement plus?
Déjà, je suis d'accord avec ce qui est dit. Il y a la question de l'incarnation et de la société de l'image qui est importante, mais c'est assez intéressant de voir que cette tendance, on la retrouve à long terme. Donc nous, on se base toujours sur des chiffres. Si on prend le comparatif, par exemple, entre la médiatisation des élections européennes et des élections américaines, on est toujours sur une nette domination en nombre de sujets produits par les JT, mais quasiment d'un rapport de 1 sur 2 en faveur des élections américaines. Et ce depuis les élections européennes de 99.
C'est super intéressant. Je suis presque choquée. Je savais pas. Et je peux vous dire, pour nous, c'est pas le cas. Bon, c'est normal. C'est comme dit, c'est notre mission. Mais là, je suis d'ailleurs pas du tout d'accord. Je pense que c'est pas plus compliqué. Il faut encore une fois juste entre guillemets creuser. Et effectivement, c'est prendre le temps. Mais là, c'est vrai, il y a un torrent d'images et c'est du spectacle. C'est vraiment l'impeachment, c'est un big show. Malheureusement, on n'a pas ça.
Moi, je pense que la focale de notre société, elle est vraiment rivée sur ce qui se passe aux États-Unis. On est dans une histoire de, je reviens sur le mot, de domination culturelle.
Mais bon, là, il y a, on pose la question de la responsabilité des médias aussi. Si nous, on est convaincus que la politique européenne est plus importante pour nous ou aussi importante que la politique américaine, il faut que nous, on fasse en sorte qu'on en parle aussi.
Oui.
Il y a là-dessus c'est super intéressant parce qu'on a cette domination de l'image et on le voit, nous, par les chiffres des États-Unis par rapport à la politique européenne. Je suis sûr qu'on pourrait le comparer à d'autres stats. Même l'entrée en vigueur de l'euro a fait moins de sujets que l'élection d'Obama et du président précédent, de la réélection de George W. Bush. Mais c'est aussi vrai, et il y a une vraie fascination, et c'est dans la société française, pour tout ce qui a trait au monde anglo-saxon, par exemple de la couverture du Brexit, qui monopolise, en 2018, ça représente 55% de tous les sujets consacrés à l'actualité de l'Union européenne. Et c'est vrai quand on regarde aussi en 2011, en 2007, le Royaume-Uni est toujours le premier pays, même avant l'Allemagne, traité par nos JT, quand on doit parler de l'actualité de l'Union et de son rapport à l'Union européenne. Et je crois là-dessus que ça pose un vrai sujet aux institutions européennes dans la manière dont elles structurent leur communication et surtout aux responsables politiques. C'est que on n'a pas... Alors, les journalistes, il y a 35 000 cartes de presse en France. Pour moi, c'est juste les rédactions sont juste l'expression de ce que ressent la société, en termes notamment culturels, de soft power par les différents pouvoirs politiques et les différents pouvoirs institutionnels. Et là-dessus, ça pose la question à la Commission et plus généralement aux institutions européennes de pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire de l'Europe une puissance symbolique. C'est-à-dire, on représente très bien Donald Trump, Obama, Bush dans l'histoire, et chacun représente, symbolise la parole des États-Unis dans l'histoire et à son époque. Donc il y a la question technique du robinet d'image, c'est vrai.
J'aimerais poser une question à Caroline Olivier. Vous qui travaillez donc dans un média franco-allemand, je crois que vous avez aussi travaillé pour la chaîne publique allemande ARD à un moment donné de votre carrière.
Pas directement.
Pour vous, ce déficit de présence de l'Union européenne dans les médias est une problématique purement française ou est-ce qu'on la retrouve plus généralement, est-ce qu'on la retrouve en Allemagne? Est-ce qu'on peut la retrouver en Belgique?
C'est particulier en France. C'est un problème particulièrement fort en France. Comme Bernard disait au début, déjà en regardant la présence des correspondants de chaque pays à Bruxelles, c'est flagrant la différence. Donc on a un correspondant télé public. Deux.
Ils sont deux à Bruxelles. L'ARD, ils sont une
vingtaine. L'ARD, ils ont toute une maison. Je ne sais pas combien ils sont, mais avec radio et télé, certainement une trentaine, cinquantaine, je ne sais pas. Mais c'est flagrant et c'est vrai qu'il y a la couverture des sujets européens en Allemagne est beaucoup, beaucoup plus forte. Je ne sais pas si M. Verdi a des chiffres là-dessus.
Est-ce que vous avez des chiffres, des sujets, un comparatif européen entre la France et peut-être l'Allemagne, la Belgique ou d'autres pays européens?
Alors, c'est notre prochain sujet de travail, une fois qu'on aura fini de travailler sur le projet de loi audiovisuelle pour essayer de générer des progrès concrets. C'est qu'effectivement, actuellement, il n'existe pas de données consolidées européennes sur le sujet. Par contre, effectivement, on a cette question de la représentation auprès des institutions. Et là, Madame Berthet l'a très bien dit. Je veux dire, en France, la télé publique allemande a une maison entière à côté de l'ambassade, tandis qu'on a deux correspondants de France Télévisions, bon, avec un peu de staff technique. Et donc la comparaison, moi j'ai repris des chiffres qui étaient publiés en 2009 ou en 2004. On a toujours ce ratio-là, et il est toujours en défaveur des moyens investis par les rédactions françaises. Donc on n'a pas de données, mais on le voit bien quand on étudie la couverture. Et c'est encore pire quand on va regarder du côté des chaînes privées, où là, on est sur des correspondants freelance, qui sont plutôt des points de contact, mais pas du tout de présence structurée. Et là-dessus, je voulais juste ajouter une très très bonne remarque du rédacteur en chef de Context, qui est un site spécialisé sur le suivi des affaires publiques. Donc c'est un public spécifique, mais qui disait que, par exemple, dans la presse agricole, on a eu une transition de la presse agricole du suivi national vers le suivi européen, parce qu'au fur et à mesure des années et des décennies, la presse s'est déplacée là où il y avait le pouvoir. Et parce que ça paraissait évident que le pouvoir sur tout ce qui est politique agricole s'était déplacé à Bruxelles par rapport aux États-nations. Et en fait, les rédactions nationales, sur un certain nombre de sujets où l'Union européenne centralise et fait le jeu aujourd'hui, politique aujourd'hui, n'a pas réussi à faire cette transition pour suivre le pouvoir à mesure de ce qu'elle fait au niveau national.
Alors, le temps passe et...
Juste une petite précision là, par rapport à ce qui est très intéressant, ce que vient de Théo Verdier. À France Télévisions, jusqu'ici, on n'a parlé que de Hot News. On a un très grand travail d'analyse, de mise en perspective, de sujets qui sont traités en profondeur, tant sur les antennes nationales que régionales. Et j'en reviens à ce qu'il disait justement sur la politique agricole, par exemple. On a, dans le réseau régional, ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans l'étude, mais on a un gros travail qui a été fait, notamment là pendant la période électorale, par les régions. J'en parle librement parce que je suis en contact direct avec les rédacteurs en chef des régions. On a, au sein des régions, depuis maintenant une dizaine d'années, un système de formation des journalistes, un système de spécialisation des journalistes, pas dans toutes les régions, mais dans beaucoup de régions, où les gens se spécialisent sur des sujets qui sont pas faciles, comme les sujets de la PAC, les sujets d'agriculture, les sujets sur les fonds structurels, etc. Des sujets qu'il faut vraiment prendre en main et qui intéressent les gens dans les régions. Et derrière, ça donne des émissions. Le mois dernier, au Parlement, c'était France 3 Caen qui était là pour enregistrer une émission sur la pêche face au Brexit. Et c'était passionnant.
J'aimerais qu'on conclue par une note peut-être constructive, pas seulement un constat négatif. Qu'est-ce que vous préconiseriez-vous? D'abord, je parle aux deux experts et aux deux professionnels sur place. Pour améliorer ça, qu'est-ce que vous, de votre niveau à Arte, vous considérez que vous pourriez faire mieux et que vous pourriez être un exemple pour d'autres médias? Et vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que c'est simplement juste avoir plus de journalistes à Bruxelles ou qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre, selon vous?
Pas forcément, mais je dirais se battre toujours pour convaincre les rédacteurs en chef et les chefs d'édition pour passer des sujets, faire plus de décryptage, plus d'analyse, utiliser les moyens dont je parlais tout à l'heure.
Il ne faudrait pas des contraintes, parce que je pense que Théo Verdier, lui, il pense plus à réformer, dans un nouveau contrat entre.
Moi, j'aime pas la contrainte. On a un cahier des charges. On en parlait au début de l'émission. Respectons-le. On le fait en termes de formation. Depuis, ça fait 13 ans là qu'on fait des formations sur l'Europe. On a déjà vu défiler 400 journalistes du service public, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg, pour ce type de formation. Ce sont des choses qui marchent bien. C'est notre cahier des charges. Et ça marche.
Et vous, Caroline Olivier?
Bah nous, évidemment aussi, on peut encore mieux faire. Je disais au début que pour moi, l'Europe, c'est aussi les sociétés européennes. Moi, j'aurais un correspondant dans chaque pays européen. À Bruxelles, évidemment, j'aimerais aussi avoir encore plus de monde parce que je pense pour rendre les institutions, la politique intéressante, il faut pouvoir creuser, il faut donner le temps et le moyen aux journalistes de pouvoir trouver les histoires. Sinon, j'aimerais conclure avec un dernier appel aux hommes et femmes politiques. Ils n'ont pas besoin d'être des caractères, comme on a dit au début, ça serait chouette d'en avoir plus, mais au moins être plus disponible, plus ouvert, parce que ça, je peux les dire, ça nous arrive, nous aussi, Arte, même si on a une réputation d'être une télé européenne, les hommes et femmes politiques européens sont pas toujours dispo, ont souvent un discours de langue de bois. Donc là, je pense qu'il y a du travail à faire aussi.
Et on termine avec vous, Théo Verdier. Donc vous, je crois que vous travaillez plus sur une réflexion sur un cahier des charges et différent pour France Télévisions et le secteur public de l'audiovisuel, c'est ça?
Alors oui, bon, déjà, là, à court terme, uniformiser par le haut les exigences vis-à-vis du service public audiovisuel, parce qu'il y a effectivement des mentions de l'Union dans le cahier des charges de France Télévisions, mais par exemple, il n'y en a pas une seule, pas une seule dans celui de Radio France. Et donc, du coup, on a ce déséquilibre qui pose un souci au législateur quand il fait le suivi, et au CSA quand il fait le suivi de l'exécution des différents cahiers des charges, où par exemple, Radio France n'est pas comptable de son action sur l'Union. Et le deuxième point de progrès, c'est le simple fait de créer un outil de suivi. En fait, nous, on a fait ce travail avec l'INA d'aller déterrer les statistiques et ensuite de qualifier les différents sujets pour quantifier la visibilité de l'Union européenne dans les médias. Mais il faut bien savoir que les chaînes aujourd'hui, elles sont incapables de faire ce travail-là. Et donc nous, le travail qu'on mène, c'est soit côté CSA, soit côté INA, soit dans les chaînes comme on l'a sur la parité, la diversité ou les Outre-mer désormais. On est au moins le décompte de la quote-part qu'on accorde à l'Union européenne pour que les chaînes puissent se dire « bon bah ok, on peut s'auto-évaluer, on peut essayer de progresser parce que de manière macro, on tient les comptes ».
On sera obligé de conclure, le temps presse malheureusement, ça va très vite. Donc je vous remercie Caroline Olivier, je vous remercie Bernard Veil, et merci Théo Verdier pour avoir participé à cette émission. À bientôt pour une nouvelle émission Fréquence Europe.